Radio Capi.
Oh, Capi.
Gisèle Cage pour le journal.
Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Voici les informations essentielles de ce jour. Dans la ville d'Ouvira et une partie de la plaine de la Ruzizi, au sud Kivu, la cohabitation entre le FARDC et le Wazalendo est marquée par des tensions. Ces deux forces opèrent sous des commandements parallèles, rendant ainsi la coordination opérationnelle complexe. Les Wazalendo refusent de s'unir avec les FARDC qu'ils accusent d'être corrompus par l'ennemi. Dans la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, au nord Kivu, un réseau de bandits s'en prend aux enfants, les tuant et emportant certains de leurs organes pour des raisons encore inconnues. Le bourgmestre adjoint de la commune, Jean des Dieux Kibwana, appelle les parents à redoubler de vigilance et annonce l'ouverture d'enquête pour démanteler ce réseau de malfaiteurs. Encourager les femmes dans la mine. Seuls 5% des femmes en RDC sont dans ces secteurs, selon Madame Mouchia. Pour inciter davantage des femmes à s'élancer dans les mines, une journée sectorielle sur les mines, la résilience et le développement à l'est de la RDC a été organisée en Mbujimayi au Kasaï oriental. Madame Mouchia, directrice générale de l'agence de communication responsabilité sociétale des entreprises, revient sur cette activité dans un entretien avec Radio Capi. Elle est notre invitée. C'est tout pour le titre. Comme indiqué dans le titre, la situation sécuritaire reste relativement calme dans la ville d'Ouvira et une partie de la plaine de la Ruzizi. Malgré quelques incidents signalés, les Wazalendo et les FARDC, les deux forces présentes, opèrent sous deux commandements parallèles, ce qui complique la coordination des opérations. Le point avec Ronelli Ntimbonera.
L'incompréhension palpable entre les deux forces qui sont pourtant déterminées à stopper la progression des rebelles sur la ville d'Ouvira fragilise leur unité dans le commandement des opérations militaires. Les Wazalendo s'opposent à l'unicité avec les forces de l'armée régulière qui, selon eux, seraient corrompues pour faire tomber Ouvira à l'instar d'autres villes comme Bukavu et Goma. D'après nos sources des services de l'administration urbaine d'Ouvira, ces divergences sont la conséquence des intérêts égoïstes visés par chacune des forces en présence. Une réunion de rapprochement de vue est prévu à Ouvira ce week-end entre les Wazalendo et les FARDC, renseignent les mêmes sources administratives. L'autorité de l'État est quasi inexistante dans cette ville, s'exclame un agent de la mairie d'Ouvira. Pas de police ni de cours et tribunaux. Le banque et toutes les institutions de microfinance sont fermées. Les activités scolaires et académiques tournent au ralenti. Pendant ces temps, le M23 et son allié l'armée rwandaise fixent leur base à Kamanyola, tandis que leur position avancée se trouve à Katogota sur la RN qui mène à Ouvira.
Dans le territoire de Djougouan-Itori, des nouveaux affrontements ont eu lieu jeudi entre la milice Codeco et les forces de l'armée ougandaise UPDF dans le village de Bethlehem près de Fataki. Des sources fiables rapportent des pertes en vies humaines et des blessés de deux côtés. Toutefois, des sources sécuritaires locales pointent du doigt des éléments de la milice d'autodéfense Zaïre comme étant à l'origine de ces violences. Ézéchiel Mouzalia.
Des sources concordantes dans la région rapportent que des miliciens des Zaïre ont fait incursion jeudi dans le village d'Androu, chef-lieu du groupement Fataki. Sur place, ils auraient incendié plusieurs maisons d'habitation et emporté des biens de valeur. Une situation qui a provoqué un nouvel exode des populations vers Loda. Il n'en fallait pas plus pour que la Codeco s'invite au débat. Ces miliciens ont repoussé ceux des Zaïre jusqu'au niveau du village de Bethlehem, où ils se seraient réfugiés, rapportent nos sources. Ce qui a eu pour conséquence la reprise des combats entre les troupes de l'armée ougandaise et la Codeco. Plusieurs villages, notamment ceux situés sur les tronçons Djaïba, Sanduku et une partie de Fataki, sont vidés de leurs habitants à la suite de ces affrontements. Des milliers d'entre eux passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres à côté de la base de la MONUSCO. L'administrateur du territoire des Djougou indique que les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour dénicher les auteurs de ces actes de violation des droits de l'homme. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
En mission d'inspection et d'évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika face à l'agression du Rwanda et de ses alliés, le commandant de la 22e région militaire a présidé une parade militaire à Kalemi le vendredi. Selon le service de communication et d'information des forces armées, le général Eddy Kapenda a rappelé aux militaires la mission des FRDC et a insisté sur la discipline militaire. Le point avec Paulin Munanga.
Au cours de cet entretien avec les militaires des FRDC, le commandant de la 22e région militaire fait un rappel, celui de ne jamais trahir le Congo, et cette devise doit être d'application au sein des forces armées, indique les services de communication et d'information militaire. Le général Eddy Kapenz met un accent particulier sur les relations civilo-militaires en vue d'une bonne cohabitation avec la population pendant cette période de guerre, rapporte la même source. En outre, il lance un appel aux officiers à une bonne gestion des troupes sous leur commandement en insistant sur certains actes de démoralisation des militaires engagés au front, des actes caractérisés par l'utilisation abusive des téléphones pendant les opérations. Au cours de cette parade militaire, le général Eddy Kapenz a réarmé les morales des troupes dans le but d'une détermination totale pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Enfin, le service de communication et d'information des forces armées annonce que la situation sécuritaire demeure calme dans la province du Tanganyika.
Le gouvernement déplore 73 assassinats, des viols et de recrutements forcés des jeunes et d'enfants dans les zones occupées par le M23 soutenu par l'armée rwandaise. C'est ce qu'a rapporté son porte-parole Patrick Muyaya hier vendredi lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Un condensé de Karine Topé présenté par Jacques-Yves Molima.
Dans ses comptes rendus, Patrick Muyaya a rapporté des violations massives des droits humains dans les zones occupées par les rebelles du M23 RDF, notamment 73 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, plus de 112 cas de torture corporelle, des disparitions et enlèvements, des recrutements forcés des jeunes et enfants et des viols. Il a également déploré l'installation d'une administration parallèle instaurée par les rebelles dans les territoires occupés ainsi que des attaques continues des positions des FRDC à Moulamba et Boulungu malgré un communiqué du M23 annonçant son retrait de Walikale le 22 mars dernier et en dépit des appels à un cessez-le-feu. Patrick Muyaya a rappelé la détermination des forces armées de la RDC à défendre les territoires nationaux face à ces agressions. Cette déclaration s'inscrit dans le contexte de tensions persistantes avec le Rwanda accusé par Kinshasa de soutenir le M23 RDF. Patrick Muyaya avait déjà condamné en février dernier les discours de haine attribués au Rwanda, soulignant l'unité des 450 ethnies congolaises.
Les consultations politiques menées par le conseiller spécial du chef de l'État sont en pause ce week-end et reprendront lundi selon sa cellule de communication. Hier vendredi, plusieurs personnalités des regroupements et regroupements membres de l'Union sacrée ont échangé avec Eberhard Kolongele. Parmi eux, s'est trouvé Sami Badibanga, ancien premier ministre Justin Bitakwira, les sénateurs Omana Bitika ainsi que divers regroupements formant la majorité extra-parlementaire. Billy Yvan Lutumba nous présente un résumé des interventions lors de ces échanges.
Au cinquième jour de ces consultations, des appels envers toutes les autres forces vives et politiques à rejoindre cette initiative se multiplient de la part des délégations reçues jusque-là. Justin Bitakwira.
Formons un seul corps et que tous ceux qui hésitent encore sachent qu'ils n'ont pas un autre pays. Je ne peux pas vous dire combien ils tuent par jour. Je ne peux pas vous compter ce qu'ils pillent comme bien et amener de l'autre côté du monde. Je ne peux pas vous dire combien déjà ne sortent plus de leur maison. Et nous avons répondu à cet appel pour qu'on aide le chef de l'État à former ce que j'appellerai aujourd'hui les léopards politiques et diplomatique pour faire face à la menace.
Quand une maison brûle, on ne s'attarde pas à tenir des réunions des familles, il faut par contre s'adonner à éteindre le feu. C'est en ces termes que l'ancien premier ministre Sami Badibanga interpelle pour une unité nationale.
Tout peuple qui perd le contrôle de ses frontières perd la maîtrise de son destin et donc de son avenir. Nous devons tous travailler ensemble pour pouvoir recouvrir nos frontières. C'est un principe qui n'est pas du tout discutable et tout ce que je peux dire, c'est de demander à la société civile, à l'opposition, de bien vouloir répondre à cette cette invitation. Même s'ils ne sont pas d'accord sur certaines choses, ce serait préférable qu'ils viennent le dire et à partir de là, une discussion peut s'engager.
Signalons qu'au cours de toute cette semaine, ce sont exclusivement les regroupements proches du président de la République qui ont rencontré Eberhard Kolongele. La semaine à suivre, on s'attend à voir ceux de la société civile et de l'opposition.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Au Nord Kivu, le bourgmestre adjoint de la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, a lancé une alerte concernant un réseau des bandits qui ciblent des enfants depuis un certain temps dans sa juridiction. Selon Jean des Dieux Kibwana, ces criminels tuent leurs victimes et emportent certains organes pour des raisons inconnues. Il appelle les parents à redoubler des vigilances et annonce l'ouverture d'enquêtes pour démanteler ces réseaux des malfaiteurs. Jean des Dieux Kibwana a été interrogé par nos collègues de Radio Moto Butembo Beni. Voici un extrait de ses déclarations sélectionnées par Guylaine Kassassia.
Nous alertons la population d'Oicha sur un mouvement de personnes qui enlèvent les enfants. Vous savez, la voie passée, il y a eu un enfant qui a été enlevé par des bandits. Avant-hier, au quartier Mbimbi, dans la cellule Maïsafi, il y a un enfant du sexe féminin qui a été aussi tué après avoir enlevé certaines parties du corps. Nos hypothèses, c'est qu'il y a déjà certaines personnes, peut-être ils sont demandés ou trompés, soit en disant qu'on va leur donner de l'argent. On les demande d'aller chercher certaines parties du corps des enfants. Nos enquêtes sont à court et on voudrait coûte que coûte trouver la personne et les complices qui ont exécuté cet enfant. C'est horrible, ça fait du mal si un enfant de 2 ans, on doit effectivement prendre les parties de ce corps, peut-être parce qu'on veut avoir de l'argent, je ne sais pas si on veut faire quoi avec ces parties, c'est vraiment horrible. Les parents, soyons prudents, protégeons nos enfants et nous tous dans l'assemblée, nous devons nous surveiller mutuellement pour que nous puissions vraiment dénicher ce malfrat.
En Ituri, 21 officiers de la police nationale congolaise ont achevé le vendredi à Bounia une formation de 3 mois en technique agricole et d'élevage. Cette formation vise à préparer ces officiers à une vie autonome après leur retraite. Parmi les lauréats figurent le commissaire provincial de la police, le général Segengoy Sengeloa. Sadiki Aboubakar pour les détails.
La formation a été organisée en collaboration avec l'ASBL, les rebâtisseurs, un centre de formation professionnelle et des métiers. L'objectif est de pousser ces officiers à préparer leur retraite pendant qu'ils sont encore actifs. Le pasteur James Biensi est le coordinateur de l'ASPL Les Rébâtisseurs.
C'est lever la conscience suite à la retraite de beaucoup d'officiers qui, une fois qu'ils terminent, ils se retrouvent n'ayant pas grand-chose à faire. La vérité, c'est que l'enveloppe salariale que beaucoup reçoivent n'est pas à mesure de les prendre en charge totalement.
Ils ont appris la technique de l'agriculture et de l'élevage. Jean-Claude Tchouvi, le formateur, appelle les lauréats à mettre en pratique toutes les notions en technique culturelle apprises en vue de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le général Ngoy Sengeloa, commissaire provincial de la police, fait partie des lauréats. Il affirme qu'en temps de paix, la police peut également contribuer au développement du pays.
La police nationale congolaise n'a pas seulement mission d'être devant la foule en manifestation pour la calmer, mais elle peut tout faire en temps de paix pour prendre part active à l'essor holistique de la nation, notamment dans l'agriculture et l'élevage.
Le centre a doté chaque lauréat d'un kit aratoire et des semences. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
À Kinshasa, l'ONG Edo Vert lance un appel à l'aide. Cette structure encadre des enfants pour participer à des concours internationaux. 6 élèves qui l'accompagnent doivent représenter la RDC à un concours intercontinental d'épellation prévu du 9 au 13 avril au Nigeria. Cependant, l'ONG sollicite le soutien des ministères de l'éducation et de la culture ainsi que d'autres partenaires du secteur éducatif. Écoutez cet appel de Jonathan Elenga, vice-président de l'ONG au micro de Gloria Lutula.
Notre ONG a fait son devoir habituel. C'est lui de trouver les élèves qu'il faut pour représenter le pays. Nous avons essayé de travailler avec des écoles, mais force est de constater qu'il n'y a qu'une seule école, Kinshasa Christian School, qui justement s'est montrée très collaboratrice avec nous. Nous avons 6 élèves de cette école-là qui vont représenter la RDC dans ces concours continentaux. Nous sommes en train de vouloir quitter le pays sans un seul appui de notre gouvernement. Alors que parmi les 22 pays, chaque pays est en train d'accompagner ses enfants. Alors nous avons depuis 2024 introduit des demandes d'audience. Le concours c'est du 9 au 13 avril. Nous devons quitter le pays au plus tard le 8. Si je passe à Radio Okapi, c'est pour lancer ces cris d'alerte, demander aux autorités du pays, à toutes ces organisations qui s'intéressent aux enfants, d'accompagner en fait nos enfants qui sont sur le point de partir représenter la RDC au Nigeria, précisément de la ville d'Abuja.
Actualité internationale. Bonne nouvelle pour le Sénégal. Après le gel brutal des projets d'aide financés par les États-Unis, en février, le projet Sénégal Power Compact redémarre grâce à une dérogation exceptionnelle américaine. Le département d'État américain a en effet accordé le 18 mars une dérogation exceptionnelle pour la reprise du projet Sénégal Power Compact sur demande du ministère de l'économie sénégalais. Ce projet d'ampleur lancé en 2021 pour 5 ans vient en soutien à l'objectif d'accès universel à l'électricité dans le pays avec une enveloppe totale de 600 millions de dollars, soit plus de 550 millions d'euros. Et puis, le président russe Vladimir Poutine a évoqué hier vendredi l'idée de mettre en place une administration transitoire en Ukraine sous l'égide de l'ONU afin d'organiser une élection présidentielle démocratique avant toute négociation sur un accord de paix. Vladimir Poutine a déclaré: on pourrait bien sûr discuter avec les États-Unis, même avec le pays européen et bien évidemment avec nos partenaires et amis sous l'égide de l'ONU d'une possibilité de mettre en place en Ukraine une administration territoriale. Cette déclaration intervient alors que les alliés européens de l'Ukraine réunis la veille à Paris ont discuté des garanties de sécurité pour Kiev. Le Royaume-Uni et la France ont proposé le déploiement futur d'une force de réassurance dans le pays qui fait face à un assaut russe depuis plus de 3 ans. Selon donc le président français Emmanuel Macron, une mission franco-britannique se rendra dans les prochains jours en Ukraine pour préparer notamment le formant de l'armée ukrainienne qu'il considère comme la principale garantie de sécurité du pays.
L'invité.
Au Kasaï oriental, des femmes travaillant dans le secteur des mines, des médias, de la santé, ainsi que quelques directeurs d'entreprises publiques ont participé à une journée sectorielle sur les mines, la résilience et les développements à l'est de la RDC. Cette activité organisée mardi dernier par l'Agence des communications et responsabilités sociétales des entreprises s'inscrivait dans le cadre du mois de la femme. L'objectif était d'inciter les femmes à se lancer dans le secteur des mines. À ce jour, seulement 5% des femmes en RDC travaillent dans les mines, a révélé Madame Mouchia, directrice générale de l'Agence de communication responsabilité sociétale des entreprises. Elle est l'invitée de ce journal et son entretien avec Esther Ndalafina. Suivez.
Madame Mouchia Kabeya, bonjour.
Bonjour madame.
Que signifie RSE?
Résilience RSE. Donc c'est une agence qui est spécialisée en RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça signifie de pouvoir s'occuper des questions sociétales, des questions sociales de l'entreprise, comme l'agriculture, l'environnement, la santé. Et là, effectivement, au mois de mars, nous nous occupons de l'objectif de développement 5 qui parle du genre et qui parle notamment de l'autonomisation des femmes.
Et pourquoi avoir organisé cette journée sectorielle dans la province du Kasaï oriental?
Ça fait 11 ans que chaque année, nous organisons une rencontre de femmes, toujours à la rencontre des femmes professionnelles, les femmes employées, les femmes entrepreneurs, les femmes artistes, les femmes politiciennes, pour pouvoir mettre en avant la représentativité des femmes dans les secteurs d'activité. Prenons l'exemple du secteur minier. En RDC, la place de la femme, c'est 5%. La femme est représentée à hauteur de 5% dans le secteur minier en République démocratique du Congo, à hauteur de 15% sur le plan mondial. Et donc le but, c'est vraiment d'interroger certains secteurs d'activité et de demander comment, quelle est la représentativité des femmes dans la science, dans la politique, quels sont leurs défis, quelles sont leurs difficultés et quelles sont au contraire leurs opportunités en tant que femmes. Quand on regarde par exemple dans la politique, on voit actuellement le rôle que joue la femme dans la diplomatie. Et il y a même des gens qui disent même que si elle n'était pas femme, elle n'aurait pas fait les résultats qu'elle a fait là. Donc on est vraiment fiers de mettre en avant les femmes qui s'illustrent dans un secteur.
Et comme vous êtes à la deuxième deuxième édition ici chez nous. Avez-vous cherché à trouver les causes de cette sous-représentation des femmes dans le secteur des mines, aussi en politique?
Non, je n'ai pas la réponse complète. C'est justement ça, le but de ces rencontres sectorielles. On pense que c'est, comme c'est le mois de mars, c'est seulement pour les mamans. Non, au contraire, nous, ce qu'on aime, c'est que on a des problèmes, nous, les femmes, mais on a des problèmes, on a des questions à poser aux hommes. Donc, on aime quand l'homme aussi participe, à l'instar du DG, monsieur André Kabanda, directeur général de l'AMIBA, de montrer que je suis peut-être un dirigeant, je suis peut-être un homme, mais je pars donner mon temps à la femme, je pars écouter les femmes, je pars écouter leurs propositions. Comme vous voyez, là, il y avait directement une proposition de stage avec la seule jeune fille en formation d'ingénieur à l'université de Mbujimaï. Donc, chaque homme de masculinité positive a de quoi passer aussi un bon moment avec nous.
La présence de monsieur André Kabanda, qui est le directeur général de l'AMIBA dans la salle, est-ce qu'il avait une signification particulière?
Oui, vraiment, il a voulu montrer cet élan de masculinité positive, tout comme le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui-même, le président, avait lancé le concept de masculinité positive africain en RDC à Kinshasa en présence de deux ou trois autres chefs d'État africains. Pour que la femme restaure ses droits, il faut que l'homme aussi s'adapte et ait une bonne mentalité. Donc, il a vraiment voulu montrer ça. En plus, quand ça vient de la tête, tout le monde suit l'exemple. C'est dans cet exemple-là que le DG de la MIBA a voulu montrer que c'est une rencontre des femmes dans les mines, mais il faut qu'on ait le directeur général de la principale entreprise minière de la région.
Il y a eu des thématiques qui ont été décortiquées. Quelle impression avez-vous après cette deuxième édition?
Les thématiques étaient vraiment intéressantes, de rappeler aux gens ce que c'est que le génocide, le génocide économique. On n'a pas encore fait assez de vulgarisation de cette expression. Nous avons abordé effectivement la féminisation des métiers du secteur minier. Nous avons également mis en avant la femme dans les médias, un outil aussi très important pour la population. En tout cas, cette année, nous mettons en avant la femme dans le secteur de la santé avec l'accompagnement du ministère de la Santé, Hygiène et prévoyance sociale. Et vraiment, encore une fois, cette question de femmes dans les mines qui est notamment portée par le cadastre minier, qui est le partenaire principal qui a vraiment souhaité accompagner cet événement.
Madame Mouchia Kabeya, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Madame Mouchia Kabeya, directrice générale de l'agence de communication responsabilité sociétale des entreprises, répondait aux questions de Esther Ndalafina. C'est ainsi que se termine notre journal parlé de ce jour. Nous vous remercions de votre fidélité et vous invitons à rester à l'écoute des Radio Capi pour plus d'informations et des programmes passionnants. N'oubliez pas, en tout cas, de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour des mises à jour en temps réel. Vous pouvez continuer à suivre le programme de Radio Capi en restant connecté sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Merci à Debs Vita pour la mise en onde, à Jacques-Yves Molima pour la coordination. C'est fait un plaisir pour moi, en tout cas, de vous informer. On se retrouve demain.